Place ces derniers mois à une rétrospective consacrée à l'artiste multidisciplinaire, enseignant, fondateur de l'atelier La Galerie Graff. Eh bien, c'est un artiste donc multidisciplinaire qui a marqué la scène art visuelle et même, je dirais, l'histoire de l'art du Québec, particulièrement dans les années 60-70, hein, un méga événement qui a pris place donc dans 8 lieux de diffusion et qui est toujours en cours à la Grande Bibliothèque jusqu'au 5 mars. Et on peut encore voir donc cette exposition à grand déploiement. Et j'ai à mes côtés le commissaire de ce méga événement, Nicolas Mavrikakis. Bienvenue en ce mardi matin.
Bonjour, ça va bien. Je vous corrige, il y avait 6 lieux seulement, mais bon, il y avait plusieurs expositions, donc ça pouvait vous prêter à confusion. Oui, la rétrospective à Yacht, grande rétrospective à Yacht, dure jusqu'au 5 mars prochain.
Alors, tout un déploiement, comme je mentionnais, permettant de voir la contribution de Pierre Ayotte et Nicolas Mavrikakis. Si vous me faisiez d'abord un petit bilan de cet méga événement.
Alors, le but, c'était de refaire une lecture de l'œuvre de Pierre Ayotte, qui avait souvent été représenté comme étant un artiste, qui faisait des trompe-l'œil amusants. Voilà, on a souvent écrit ça à son sujet. Et donc, moi, j'ai décidé de montrer qu'il y avait autre chose de plus profond dans son travail, même si le trompe-l'œil peut déjà une chose pas mal intéressante. Mais je voulais montrer aussi comment il avait donc été intéressé par des enjeux divers, comme par exemple la notion d'installation, qu'il avait été en dialogue, il était très au courant de ce qui se passait, évidemment, bien sûr, il est un homme de son époque, toutes les questions formalistes, donc il avait dialogué avec tout l'art formaliste de son époque, exposition que j'avais donc montée chez Joyce Yehuda, où je montrais les parallèles entre son travail des artistes comme Molinari, Toussignan, et j'en passe. Voilà, et donc, et puis montrer aussi comment son travail était...
touché à l'art public aussi, hein?
Oui, bien sûr, il a fait beaucoup d'œuvres d'art public, Radio-Canada, qui a été malheureusement détruite pour un pénitencier à Amos. Enfin, il en a fait plusieurs de ses œuvres d'art public. Mais je voulais montrer aussi comment son travail était tout à fait en dialogue avec son époque, comme il avait été quelqu'un qui avait été un artiste bien plus engagé qu'on avait pu dire, quelqu'un déjà engagé sur le terrain, puisqu'il va fonder donc Graff, ce centre donc, de création, qui était ouvert 24 heures sur 24 pour permettre aux artistes de travailler quand ils le voulaient, par exemple.
Alors, c'est toute une époque.
Oui, une époque d'effervescence, les années 60, 70, 80, où les artistes ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent des choses par eux-mêmes, qu'ils n'attendent pas tout de la société, mais aussi un artiste qui a essayé de dialoguer avec les grands enjeux politiques de son époque, sociaux et politiques de son époque, les questions féministes, par exemple, bien évidemment, la critique institutionnelle, ce à quoi on ne l'avait pas nécessairement associé, mais pourtant c'est tout à fait présent dans son travail.
Oui, la critique institutionnelle, vraiment, c'est d'importance, hein, que ce soit le revenu des artistes ou que ce soit le lieu de diffusion de l'art. Avec le recul, quelle est votre opinion sur la controverse, Nicolas Mavrikakis? Parce que ça s'est plutôt bien terminé, hein?
Ah, la controverse à propos de la croix. Oui. Parce que oui, donc il faut raconter que avec la galerie B312, je suis allé voir la galerie B312 pour remonter la croix que Pierre Ayotte avait montée dans le cadre de l'exposition Corridor en 1976. Exposition qui était là pour montrer ce que les artistes québécois faisaient à la planète lors des Jeux olympiques de 1976.
Une exposition marquante et vous avez été deux commissaires, hein, pour faire face à l'adversité.
Voilà, avec Marc Carrier et tout le centre B312 d'ailleurs aussi, il faut souligner dont Isabelle Guimont, enfin moi, il y a toute une gang de gens qui ont travaillé avec nous. Nous avons donc recréé la croix du Mont-Royal de Pierre Ayotte de 1976. On l'a changée de place. À l'époque, elle était sur le terrain de l'Université McGill, puisque Melvin Charney, qui avait donc été le commissaire de l'événement Corridor, avait donc installé toutes les œuvres sur la rue Sherbrooke. Et dans ce cas-ci, donc pour ne pas renouer avec la polémique de l'époque, nous voulions installer l'œuvre donc aux abords du Mont-Royal. Et voilà, ça a créé une petite polémique qui s'est bien réglée finalement, mais qui a été une polémique qui nous a montré que, encore de nos jours, bizarrement peut-être, aborder les sujets religieux ne se fait pas si facilement qu'on pourrait le croire.
Et c'était une façon de faire revivre un petit peu la démarche de Pierre Ayotte, en quelque sorte, qui, je pense, souhaitait un peu faire réfléchir, ébranler les convictions, faire réfléchir. Hein?
Bon, il faut se méfier. Pierre Ayotte, il est très proche du mouvement pop art. Le pop art, il y a... toute cette idée dans le pop art de déplacer des images qui sont très connues, de les amener dans un autre contexte pour qu'on les voit. Comme si avec le temps, on ne voyait plus les symboles qui sont véhiculés dans notre société. Par exemple, la croix, est-ce qu'on la voit encore? Est-ce qu'on comprend ce qu'elle représente ou pas? Donc, l'idée de la déplacer, symboliquement, là, puisque c'est une réplique à plus petite échelle, c'était aussi le but, c'était de faire réfléchir les gens, peut-être à la séparation de l'Église et l'État dans les années 60-70, qui s'était faite, clairement, j'espère. Donc, il y avait cette idée-là. Donc, est-ce qu'il avait vraiment le but de vouloir choquer, à voir? Je pense qu'il y avait vraiment le but, parce que j'ai vu d'autres dessins qu'il avait fait, qui étaient plus explicitement, qui effectuaient un dialogue plus explicite avec cette question de la séparation de l'Église et l'État. Dans ce cas-ci, il y avait l'idée de créer juste un moment de surprise aussi, d'attention pour le spectateur, de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, vous voyez, le genre de choses. Et ça appartient aussi à son œuvre. Mais c'est sûr qu'il y avait, je crois, aussi un désir de faire réfléchir les gens, donc, au fait que la société québécoise, qui avait été dominée par l'Église, ne l'était plus. Donc, il y a peut-être aussi un constat.
Il avait besoin de se libérer, hein, et s'inscrivait dans ce mouvement-là, résolument.
Oui, l'idée d'un constat. Mais moi, mon but, c'était, à l'automne dernier, en la remontant, c'était aussi de faire réfléchir les gens au patrimoine, hein, de l'installant à côté de l'Hôtel Dieu et donc des hospitalières de Saint-Joseph, des bâtiments des hospitalières. C'était aussi de faire réfléchir les gens au patrimoine. On était en train de jeter beaucoup de notre patrimoine à la poubelle. Et parfois, il y a peut-être des bâtiments qui en valent pas la peine. C'est peut-être pas tout à fait du patrimoine, mais il y en a d'autres, énormément, qui en vaut la peine. Donc ça me semblait très problématique. Et il y avait aussi ce but-là, lorsque Marc Carrier et moi avons voulu remonter cette croix.
Et cette position-là de la croix, ça voulait dire quelque chose, hein? Qu'est-ce que ça représentait, cette position de la croix couchée?
Allez savoir. Hayot ne s'est jamais vraiment expliqué. On peut l'interpréter de bien des manières. Et de toute façon, ça, c'est aussi l'intérêt de l'art. C'est qu'une œuvre, elle a plusieurs significations. On a eu un texte là, de Gérard Bouchard dans Le Devoir qui est paru il n'y a pas très longtemps. Non, dans La Presse, excusez-moi, je crois. Et qui disait, peut-être que ça signifie un chemin de croix. Peut-être que ça signifie que l'Église a été, justement, détrônée. Mais ce qui fait l'intérêt d'une œuvre d'un artiste, c'est sa multisignification. Et ça, je pense qu'elle a réussi son coup de ce point de vue-là, puisqu'on peut la voir de différentes manières. Une croix abattue, non, pas nécessairement, je crois pas. Et je crois qu'elle a le désir de nous montrer quelque chose qu'on n'a plus tendance à vraiment regarder.
L'important, c'est que toute la polémique s'est tout à fait calmée.
Oui.
C'était encore une fois une tempête pour bien peu. Alors, maintenant, donc, il y a un événement qui est en cours depuis plusieurs mois et là, on peut voir vraiment tout un parcours à la Grande Bibliothèque et c'est une magnifique exposition. Félicitations. Je pense qu'on peut voir toute la démarche multidisciplinaire de Pierre Hayot, hein, à la Grande Bibliothèque.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut voir comme œuvre?
Ah, plein d'œuvres qu'on n'a pas vues depuis des années, en fait, parce que après sa mort, donc au milieu des années 90, Pierre Hayot a eu une rétrospective au Musée des Beaux-Arts et puis depuis, évidemment, comme les artistes qui meurent, il faut attendre quelques années avant qu'il y ait un retour sur son travail. Donc, il y a des œuvres qui n'avaient pas été montrées depuis 30 ans. Par exemple, une œuvre sur René Payan, qui a été un historien et critique d'art très important au Québec. L'œuvre n'a pas été présentée depuis la fin des années 80. Il y a des pièces aussi qui n'ont pas été montrées depuis les années 60. Il y a certaines qui ont été restaurées. Madeleine Forcier, qui était la conjointe de l'artiste, a restauré plusieurs œuvres. J'ai eu accès à tous les fonds. Madeleine a été d'une générosité absolument incroyable. Et elle a réalisé aussi, dans le cadre de cette exposition-là, aussi, avec mon aide et d'autres, Gilles Desnoux a participé, Evelyne Baudré du Musée des Beaux-Arts de Québec. On a réalisé même un livre.
Qui accompagne l'exposition.
Voilà, et qui permet aux gens d'avoir trois points de vue nouveaux. Donc, Evelyne Baudré, Gilles Desnoux et moi-même, et Madeleine Forcier fait une introduction. On propose une nouvelle lecture de l'œuvre, on propose de regarder à nouveau cette œuvre et d'essayer de comprendre après que quelques années se soient passées. Comment elle résonne encore, cette œuvre-là. C'est un moment de charnière, vous savez, dans la carrière posthume, si je peux dire, d'un artiste. Ce moment où on effectue une relecture parce que, de son vivant, l'artiste n'a peut-être pas voulu parler ou il s'est prononcé sur certains sujets plutôt que d'autres. Et Hayot ne parlait pas beaucoup. Il n'aimait pas prendre position publiquement. C'était quelqu'un d'action qui faisait des choses, qui avait tout un réseau d'amis, d'artistes. Il faisait beaucoup de choses sur le terrain. Mais il n'aimait pas.
Un leader, hein, comme on dit.
Pardon?
Un leader discret.
Un leader discret, c'est joli, oui. Ça, oui. Et donc, il n'aimait pas beaucoup parler, et bien souvent d'ailleurs quand on l'invitait à parler, il refusait ou il trouvait des moyens d'esquiver ses invitations, ne pas s'y présenter au dernier moment.
Je ne connaissais pas ce côté-là de Pierre Hayot.
Oui, je suis tombé sur un ou deux documents qui racontent ça. Mais Donc, c'est un moment important parce que c'est un moment où on commence à décider, à réfléchir à l'impact de cette œuvre sur le long terme. Et c'est un moment riche parce que, ben, parce qu'on peut s'apercevoir que l'œuvre, elle est porteuse de plein de significations auxquelles on n'a peut-être pas pensé, auxquelles l'artiste n'a peut-être pas voulu trop accorder d'attention publiquement. Mais je vous donne un exemple. En 68, par exemple, il fait avec ses amis le premier coffret de gravure qu'il réalise chez Graff. C'est un coffret sur la pilule contraceptive. À une époque, en 68, où c'est encore tout à fait tabou comme sujet. Donc, il fait ça, il fait une œuvre très, très polémique, on pourrait le dire comme ça, enfin, très polémique, très engagée, on va le dire comme ça, c'est mieux. Et, où il fait référence au fait qu'à l'époque, parce qu'il met un tube d'aspirine dans son œuvre, à l'époque, on disait que les femmes n'avaient pas besoin de la pilule, qu'il suffisait qu'elles se mettent une aspirine entre les jambes et qu'elles serrent fort les jambes et qu'elles ne risquaient pas de tomber enceinte si elles faisaient ça. Vous voyez le genre de discours absolument dégoûtant qu'on pourrait croire, on pourrait croire qu'il a disparu, mais pourtant pas du tout, puisque récemment un juge l'année dernière dans l'Ouest canadien a fait cette remarque à une femme qui venait d'être violée en lui disant que si elle avait serré bien ses jambes, ça ne serait pas arrivé. Donc vous voyez, il y a encore une actualité du propos d'Ayotte, malheureusement pour nous.
Enfin, il y a encore des combats menés par les féministes, ça c'est certain.
Oui, enfin, malheureusement, vous m'entendez bien, malheureusement pour cette femme qui se fait violer et qui se fait dire ça. Mais je crois que c'est un propos d'une grande actualité encore de nos jours.
Alors, avant qu'on parle un petit peu plus de la publication qui est vraiment d'intérêt, vraiment, si on parlait un petit peu de la démarche multidisciplinaire de Pierre Ayotte, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme médium? Parce que Pierre Ayotte s'est exprimé dans diverses techniques. Hein?
Oui, donc il commence sa carrière avec la gravure, avec du Mouchel, en travaillant avec son maître du Mouchel. Il fait comme bien d'autres, comme Gaucher, fait éclater les limites de cette gravure. Il va faire des impressions sur différents moyens d'expression. Bon, ça, ça a été très bien documenté.
Il y a la main de la sculpture, hein?
Oui, bah alors il va faire des installations. Est-ce que c'est de la sculpture?
La sculpture intégrée des installations.
Oui, c'est ça, parce que si on dit comme ça pour vos auditeurs, ils vont penser qu'ils travaillaient le marbre ou la pierre. C'est pas exactement ça, il fait des installations. Alors, il participe à ce changement important qui arrive dans les années 60 et début 70. C'est cette notion d'installation
Nouvelle, c'est une nouvelle notion à l'époque.
Oui, oui.
On a de la peine à imaginer que c'était nouveau à l'époque.
Alors, on parle d'environnement à l'époque, dans les années 60. Et le mot installation arrive un tout petit peu après. Oui. Donc, d'ailleurs, René Payan, dans la pièce que Ayotte a fait sur René Payan, parle de ça, de cette idée que l'œuvre d'art, maintenant, elle existe dans un contexte, dans un espace, et qu'il faut que le spectateur fasse un travail de lecture, qu'il comprenne pourquoi tel objet à côté de tel autre, tel morceau à côté de tel autre, et là, et qu'il faut faire les ponts entre tous ces éléments-là. Donc, voilà, la notion d'installation est très présente, bien sûr.
Et il a exploré beaucoup la sérigraphie, hein, oui, qui oui, était... Oui. Quel était le statut de la sérigraphie à l'époque? C'était un sujet à controverse.
Oh, à controverse, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais c'est un sujet, c'est un médium, un moyen d'expression extrêmement important. Je crois qu'il y avait aussi pour beaucoup d'artistes l'idée d'aller rejoindre un plus large public à l'époque à travers ça. C'était un moyen qui semblait aussi en pleine révolution. On avait l'impression qu'il y avait plein de possibilités.
Trop commercial, considéré comme trop commercial dans le monde à l'art très conventionnel de l'estampe.
Vous citez qui là?
C'est inscrit dans la publication.
Oui, c'est pas moi, alors il va falloir que vous en parliez. C'est qu'on a pu reprocher à ce type d'art-là d'être commercial, oui, mais je crois que c'est un faux reproche. Je pense que dans ce désir de faire de la sérigraphie, il y avait aussi le désir de convivialité, de renouer avec une vieille tradition, j'allais dire artisanale, mais c'est pas le bon mot, mais une collégialité de production artistique. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui mériterait aussi plus d'attention, le désir des artistes au Québec de créer une communauté à l'époque.
Alors oui, voilà. Alors, on pourra terminer peut-être une dernière question avec la publication, donc, qui met l'accent sur deux aspects d'importance, hein, le rapport à l'image, tout d'abord.
Écoutez, moi, dans mon texte, j'ai fait un parcours des liens entre...
Et je parle bien sûr de votre texte, Nicolas Mavrikakis.
Oui. Mais des liens qui existent entre l'art d'Ayotte et son époque. Ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus, sur les grands enjeux de son époque. J'aurais pu en faire un autre sur le rapport au formalisme, par exemple, qui est une question qui me fascine.
Bon, oui, selon vous, pour Pierre Ayotte, l'image est toujours fabriquée.
Oui, oui, tout à fait. C'est qu'on pourrait croire qu'il crée des illusions visuelles, mais en fait, il essaie de nous montrer plutôt comment l'image, elle est donc fabriquée et qu'il nous montre comment elle est construite. Et que dans, en fait, que dans la vie, on pourrait croire que les choses sont comme elles sont, que c'est la réalité, mais qu'en fait, il y a toujours une interprétation qui devient de quelqu'un. Donc, il souligne ça en nous montrant que si on change de point de vue, si on se déplace, on peut voir que l'image, elle est construite avec des éléments disparates. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et je crois que c'est un des grands enjeux de son travail.
Et dans un deuxième temps de votre texte, le commissaire, Nicolas Mavrikakis, vous démontrez à quel point sa démarche est un côté politisé.
Oui, 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 complètement. Mais politisé d'une manière, je crois, qu'on pourrait qualifier de postmoderne, c'est-à-dire non pas dans une confrontation directe comme pourraient le faire les modernes, mais d'une manière plus subtile, plus ambiguë, laissant le spectateur réfléchir. Je pense qu'il évite la confrontation directe, c'est ça, et qu'il essaie de d'amener les spectateurs à voir des images qui sont connues, à se demander quel est leur statut dans la société, pourquoi elles sont là, de quoi elles parlent. Warhol a fonctionné beaucoup là-dessus. Hein. Warhol faisait des images, par exemple, sur la chaise électrique. On demandait à Warhol si son œuvre était politique ou pas. Il disait non, non, pas du tout, ce qui était loin d'être vrai. Mais ce que je crois qu'il voulait souligner, Warhol, mais ailleurs, je pense aussi que c'est un peu la même idée, c'est que...
Il s'inscrivait tout à fait dans le pop art.
Oui, d'une certaine manière. Donc, ce qu'il voulait dire, c'était que... le spectateur doit apprendre à décoder, il doit être devant l'énigme d'une image qui, dont le, l'explication n'est pas si claire. Que va-t-il faire, ce spectateur ? Et je pense que là, il y a vraiment l'idée d'un spectateur actif devant l'image. Mais aussi l'idée que, est-ce qu'on peut confronter directement le discours dominant ? Ah, ça c'est une bonne question. Je crois pas. Je crois pas que ce soit si rentable, malheureusement. Voilà, mais ça c'est tout le pari de la postmodernité.
Merci beaucoup Nicolas Mavrikakis. Alors un texte fort intéressant dans cette publication hein, qui démontre bien tout son engagement dans différentes causes de l'époque. Merci. Hein, et un événement que je recommande jusqu'à quelle date à la Grande Bibliothèque?
Alors la bibliothèque, ça finit le 5 mars. Voilà. Et c'est tout, les gens risquent de rater le lieu, mais c'est juste au sous-sol. Hein, et c'est un lieu absolument gigantesque et extraordinaire. Donc oui, j'invite les gens à aller voir. Il reste peu de temps, mais je pense que c'est une exposition qui va leur apprendre plein de choses aussi sur le Québec.
Oui, et merci d'avoir parlé de ce personnage, de cet artiste qui a toute une contribution. Merci beaucoup.